Europe Midi, écoutez le monde changer. Patrick Cohen.
C'était le week-end de la fin de la guerre du Golfe, 2 mars 91, un samedi soir, il y a 30 ans, Gainsbourg se barre.
Serge Gainsbourg est mort seul, il n'a pas voulu ou bien il n'a pas eu le temps de demander de l'aide.
Ok, KO. Le cœur pompe à malheur, goutte à goutte, se vide. Cancer, arrêt cardiaque, me laisse un pas vide. Dormir, une chance de rêve, trop c'est trop.
Il était aux alentours de minuit moins le quart, quand avec Bambou et Charlotte, ils ont découvert le corps de Serge Gainsbourg. Des barrières ont été posées par la police à chaque extrémité de la rue, des badauds, des passants émus se sont approchés. Louis de Verneuil, Europe 1.
Tu t'appelles comment ?
Lucien.
Lucien comment ?
Lucien Ginsburg.
Extrait du documentaire Tout sonneur composé par Julien Tarot à partir des riches archives d'Europe 1 et qu'Émilie Mazoyer vous présentera ce soir à partir de 20h au soir de cette journée hommage. Bonjour Bertrand Dical.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur d'un Tout Gainsbourg, une somme de 1000 pages qui paraît chez Grunt, qu'on peut picorer comme un dictionnaire ou une encyclopédie, qui est la biographie d'une œuvre, chanson, film, écrit et qui interroge en permanence sur la fascination exercée aujourd'hui par Gainsbourg, qui n'a d'égal que l'indifférence et l'insuccès qu'il a subi pendant 20 ans. Vous le rappelez en ouverture de votre livre, ce qui paraît fou aux plus jeunes, ou même aux moins jeunes, entre deux âges, Gainsbourg n'est devenu un génie qu'après sa mort.
Oui, c'est ça qui est étonnant. Alors, effectivement, il y a une archive radio de la radio publique dans laquelle, en annonçant la mort de Gainsbourg, on dit musicien de génie. Mais en fait, j'ai été allé vérifier les nécros qui sont parus dans la presse quotidienne. On n'emploie pas le mot de génie.
Non.
On dit, des fans disent que c'est un génie, ils le considèrent comme un génie. Mais aujourd'hui, c'est vrai que tous les journalistes, même je dirais surtout les journalistes un peu paresseux, vont dire Gainsbourg, un génie, le génie.
Décès, Le Figaro écrit dans un édito, c'était votre journal, Bertrand Dical, Serge Gainsbourg était déjà mort et il l'ignorait, il se survivait en jouant un personnage qui avait été à la mode. J'ouvre Le Figaro aujourd'hui, une double page titrée « Serge Gainsbourg, toujours vivant ». Vous voyez l'évolution.
C'est un peu normal parce que quand Gainsbourg meurt, c'est quand même Gainsbourg. Faut pas oublier que c'est une star. Une star de la provocation, mais c'est aussi une vraie star. On l'entend tous les jours à la radio. Son dernier album, You're Under Arrest, est quand même, même si les fans d'aujourd'hui pincent le nez en l'entendant, c'est quand même l'album le plus vendu de la carrière de Gainsbourg à sa mort. C'est You're Under Arrest, l'album que plus personne n'écoute aujourd'hui. Donc, il est ce personnage provocateur, scandaleux, et qui continue à jouer de cette image. Il est toujours présent dans des pubs, il est toujours présent dans... déjà, on recycle dans les émissions, on recycle ses plus belles provocations, qui ont déjà quelques années pour certaines. Donc, il est quelqu'un qui en 1991, continue vraiment à exaspérer les conservateurs.
Absolument. Mais le numéro de Libération du lundi 4 mars 91, lui, s'est vendu à 1 million d'exemplaires. Alors vous racontez, il y a eu des altercations devant les kiosques, on s'arrachait ces journaux, ces pages hommages ont été plusieurs fois réimprimées. Mais la renommée de Gainsbourg va continuer à croître tout au long de la décennie, au fil des redécouvertes de ses chansons passées. C'est ça alors, qui est extraordinaire après sa mort.
Il y a deux phénomènes. Il y a un phénomène de masse, qui est le phénomène du public de Gainsbourg. Grosso modo, quand Gainsbourg meurt et que vous avez 18 ans, vous aimez bien le Gainsbourg un peu punk, le type qui ouvre sa braguette sur les plateaux de télé, etc. Et puis, vous grandissez. Alors, vous arrêtez d'écouter des 45 tours de punk, vous arrêtez d'écouter du hip-hop américain, et puis vous vous mettez à écouter de la grande chanson française. Eh ben, vous continuez à écouter Gainsbourg. C'est-à-dire qu'il y a toute une génération qui est la génération de ces adolescents qui idolâtraient Gainsbourg, qui sont mis vraiment à aimer Gainsbourg, qui sont mis à aimer L.A.E. dans la T.I.E.T.I.A., la Javanaise, le premier album, le deuxième album, Gainsbourg confidentiel, enfin tout ce Gainsbourg classique. Il y a les professionnels. Et les professionnels ont eux aussi tourné la page top 50 et ont réalisé à quel point, quand ils écoutaient un album de Gainsbourg, ils entendaient une leçon de musique.
Absolument. Et donc, le vrai mystère, c'est pourquoi ça n'a pas marché dans les années 60. Pourquoi la javanaise, aujourd'hui considérée comme un monument, est restée une face B, par exemple.
Une face B ignorée. Il y a des années, j'avais pour le coup passé vraiment trois longues journées. J'étais en congé sabbatique, j'écrivais une biographie de Juliette Gréco. Et j'avais passé trois longues journées à la Bibliothèque Nationale à regarder dans toutes les collections des quotidiens et des hebdos, mais pas uniquement à la parution du 45 tours de Gainsbourg et du 45 tours de Gréco avec la javanaise. Mais sur trois mois, quatre mois à regarder. Et j'avais trouvé rien. C'était ça qui était extraordinaire, c'est qu'il y a personne qui dit que la javanaise est une mauvaise chanson, personne ne l'entend. Il y a même une critique dans un hebdomadaire où on parle des trois autres chansons du 45 tours de Gainsbourg. On parle des trois autres chansons, dont un violon, un jambon, dont on ne dira pas que c'est une grande chanson de Gainsbourg.
Oubliable,
voilà, qui
dire,
est tout à fait oubliable, et on s'en souvient pour ça. Mais on ne parle pas de la javanaise. Mais il est arrivé la même chose, ne vous déplaise, à toute l'œuvre de Rimbaud, à toute l'œuvre de Van Gogh, et aux Feuilles mortes. Les Feuilles mortes, ça a commencé par être un bide pendant plusieurs années, jusqu'à ce que, soudain, au bout de 3-4 ans, la chanson devienne un standard.
Avec, chez Gainsbourg, un univers, des obsessions, des références personnelles omniprésentes que votre tout Gainsbourg permet d'explorer. Exemple.
L-A, E dans l'A, T-I-T-I-A. L-A, E dans l'A, T-I-T-I-A. Sur ma Remington portative, j'ai écrit ton nom, Laetitia. L-A, E dans l'A, T-I-T-I-A.
Alors, c'est une chanson brillamment écrite et composée avec le duo Baxic et Gaudry derrière. C'est vraiment, ça sonne formidablement bien encore aujourd'hui, mais c'est aussi, comme beaucoup de chansons de Gainsbourg, parfaitement autobiographique.
C'est un recyclage, parce que quand Gainsbourg enregistre Gainsbourg confidentiel en fin 63, début 64, c'est déjà une chanson qui a à peu près une dizaine d'années. C'est à l'époque où il vivait avec Lise, sa première épouse, qu'il a rencontrée quand il avait 19 ans.
Et elle veut... été le premier à faire parler,
Et elle veut écrire des poèmes pour des revues. Donc elle se choisit un nom de plume, Laetitia Kerr. Et lui, comme elle veut écrire, il lui offre une machine à écrire de luxe, une Remington portative, ce qui est vraiment le nec plus ultra. Et on a tout. Et il tape le nom L-A, E dans l'A, T-I-T-I-A. Et ça devient un rythme, et ça devient une petite mélodie, qui est une petite blague entre eux, et ils lui chantonnent là, dans là, et ça devient, quelques années plus tard, cette chanson-là.
Histoire racontée dans votre livre. On pourrait gloser des heures aussi sur l'échec de Melody Nelson, là aussi considéré aujourd'hui comme un chef-d'œuvre absolu, qui ne s'est vendu qu'à quelques dizaines de milliers d'exemplaires, ou juste avant, ou juste en même temps à peu près, puisque c'est à peu près avec les mêmes musiciens, sur sa période de pop anglaise, qui nous a laissé par exemple ceci.
En Ford Mustang,
et
bang.
On embrasse les platanes.
Mus
à gauche,
Kang
à droite, et à gauche à droite.
On retrouve le goût de Gainsbourg pour les chœurs. Et les chœurs féminins qui ont souvent accompagné ces chansons, y compris dans la dernière période.
Les chœurs féminins qui sont au premier plan.
Oui.
Et c'est ça qui change complètement d'habitude. Les chœurs, d'habitude, ils sont derrière. Et là, on voit d'ailleurs, cet enregistrement a été filmé.
Oui.
Et on le voit côte à côte avec la choriste Madeleine Mell. Et on les voit côte à côte.
Absolument.
Au même micro. Et c'est ça qui est aussi fabuleux. C'est que Gainsbourg fait des choses qui sont parfois presque banales pour l'époque, mais il décentre un tout petit peu, c'est-à-dire avoir la voix de la choriste mixée à la même hauteur que lui, la choriste qui ne vient pas renforcer une syllabe qu'il dirait, non, elle vient dire à sa place une syllabe. Et en plus, il invente l'idée que ces syllabes seront des syllabes en anglais, donc il faut que la choriste ait bien l'accent anglais. Donc il y a toute une série de toutes petites choses, de tout petits décalages qui, à l'époque, apparaissent comme des bizarreries ou apparaissent comme des ratés.
Oui.
C'est-à-dire qu'on se dit, oula, il fait pas comme tout le monde, c'est un peu bizarre, c'est un peu étrange, c'est un peu raté. Et aujourd'hui, c'est ça qui fait aussi que c'est génial.
Et c'est une signature qu'on retrouve effectivement dans plein de chansons, dans Comic Strip et dans beaucoup d'autres. Votre théâtre Tout Gainsbourg, Bertrand Dical, c'est la deuxième édition, elle est définitive ?
Non, elle n'est pas définitive, parce que la Gainsbourgologie fait toujours des progrès. On sait qu'il y a un certain nombre de témoins qui n'ont pas encore parlé, et je pense que quand certains autres témoins auront parlé, je ferai une nouvelle édition, évidemment.
Ah, très bien, vous nous direz. Merci beaucoup Bertrand Dical, et je vous invite à écouter le documentaire sonore qui sera diffusé ce soir à 20h chez Émilie Mazoyer. Il est déjà en ligne sur europe1.fr. C'est une somme aussi, et les Gainsbourgophiles vont y trouver des pépites inconnues.